Bonjour et pardon de vous obliger à cet attirail technique. C'est l'ignorance des langues liée à l'enseignement qu'on reçoit en France m'oblige à vous infliger cette punition. Une petite chose par rapport à ce qui est écrit sur le programme. Je ne suis pas le directeur de Blomba, je suis un des fondateurs de Blomba, cette compagnie malienne qui est dirigée par mon ami Alioune Ifrane Ndiaye. On l'a créé ensemble, il avait 27 ans à l'époque, ça fait 18 ans. Et par contre, l'antenne française de la compagnie a pris une certaine importance puisqu'on nous a donné un théâtre que je dirige. Donc je dirige cette partie de l'action de la compagnie, mais je suis actif dans l'ensemble de son développement. On ne va pas commencer par l'Afrique, on va commencer par la Grèce. Il y a 2500 ans, quand les Grecs construisent une cité, il y a trois lieux stratégiques dans la cité. Le premier lieu, c'est celui dans lequel on parle avec les mystères de notre destin. C'est l'Acropole, avec le temple des dieux. Le deuxième lieu, c'est le théâtre. À quoi sert le théâtre ? Dans le théâtre se réunit la communauté des citoyens, c'est pas de la totalité, hein, mais enfin, on va faire comme si. Et les gens vivent ensemble, produisent un imaginaire qui leur est commun, un imaginaire qu'ils partagent. Ils vivent ensemble des émotions, ils rient ensemble, ils ont la gorge nouée ensemble, ils ont des histoires qui habitent leur esprit ensemble. Ils constatent qu'ils sont les mêmes êtres humains ensemble. Et ensuite, ils peuvent aller sur l'agora, sur la place publique, pour construire les lois qui vont leur permettre de vivre ensemble. C'est la fonction politique du théâtre, peut-être la fonction politique de l'art en général, c'est de produire cet imaginaire commun grâce auquel nous nous reconnaissons comme étant de la même espèce et nous comprenons, nous ouvrons la possibilité de construire nos lois et notre façon de vivre ensemble. Un autre aspect qui caractérise cette invention du théâtre, c'est le fait que ça touche des communautés relativement homogènes. Et jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, le théâtre touche des communautés relativement homogènes. Alors, je dis théâtre, hein, c'est une extrapolation. Il faudrait dire les arts joués ou contés du récit, parce que le mot théâtre est lié à l'histoire de l'Occident, et c'est peut-être un mot qui s'impose de façon un peu trop forte quand on parle, par exemple, du Koteba au Mali, qui est une forme de représentation des mots de la société sous forme de comédie burlesque. Donc je ne sais pas si le mot théâtre est adapté. En tout cas, il y a une parenté entre l'ensemble de ces arts à travers qui utilisent un récit joué ou conté. Les sociétés homogènes sont en train de disparaître au profit de sociétés sont traversés par la mondialisation, traversés par des gens qui vont, qui viennent, etc., soit par la fuite, soit par le voyage, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et c'est vraiment la réalité, c'est une réalité naissante, c'est la réalité de notre siècle. Quel théâtre, qu'est-ce qui va jouer cette fonction politique? Comment va se jouer cette fonction politique de l'art dans cette nouvelle société? C'est une question très importante et une question qui se pose d'ailleurs aux artistes. Je vois par exemple en France le système du théâtre actuellement qui n'a pas encore pris cette nouvelle dimension. Il réunit les vieux blancs à revenus moyens et supérieurs qui votent à gauche en gros. Et c'est pas toute la société. Je vais d'abord vous raconter deux histoires qui illustre cette modification considérable, très importante, et on est vraiment dans cette réunion depuis le début au cœur de cette question. La première se passe en France. Donc notre compagnie malienne s'est vue confier un théâtre dans la banlieue parisienne, un petit théâtre, et on a établi des liens très intenses avec un lycée professionnel qui est à côté de notre théâtre. Les liens sont devenus tellement intenses que la proviseure, à la fin de l'année scolaire dernière, est venue nous dire « Je voudrais accueillir mes élèves, non pas au lycée, les nouveaux élèves, ceux qui rentrent en classe de seconde, je ne sais pas si ça correspond au système ici, donc ceux qui rentrent au lycée, des enfants de 14 ans en gros, je voudrais les accueillir au théâtre plutôt qu'au lycée. » On lui a demandé pourquoi. Les lycées professionnels en France sont les lycées où on envoie les derniers de la classe, ceux qui n'ont pas réussi. Donc les enfants le vivent comme un échec, comme un endroit où on les met au rebut. Et on en a parlé tout à l'heure, en France comme ailleurs, il y a la reproduction des inégalités sociales. Ces enfants-là sont souvent les enfants qui viennent des milieux les plus populaires. Et dans les milieux les plus populaires en France, il n'y a pas que des blancs, loin s'en faut. C'est-à-dire c'est la partie de la France et la partie des Français dans lesquelles il y a le plus d'enfants, de familles qui viennent d'autres continents. Et la proviseure nous a dit, nos enfants ont l'impression qu'on les a mis dans une poubelle, qu'on les a mis au rebut. On va les faire venir au théâtre. D'abord, ils vont comprendre qu'ils auront un enseignement général de qualité, que les questions de la construction de la personne seront posées dans ce théâtre. Et puis, c'est pas n'importe quel théâtre, puisque c'est un théâtre dont la compagnie, dont les artistes viennent du Mali, en fait, vivent au Mali et viennent régulièrement en France ou en Belgique, enfin dans les pays francophones d'Europe, pour jouer leur spectacle. Et il s'était passé quelque chose d'assez extraordinaire dans les expériences qu'on avait eues avec ce lycée, tellement extraordinaire que les élèves, au début de l'année, demandent toujours « Et quand est-ce que ça commence avec le théâtre ?» Il s'est passé que ces acteurs maliens, arrivant dans un lycée français où il y a 90% d'enfants français, mais parmi ces enfants, beaucoup de Français noirs. Or, surtout en ce moment, puisque notre ancien président vient d'intimer à tous les Français l'ordre de se considérer des ancêtres gaulois, donc ça va un petit peu loin, c'est pas très facile quand on a la peau noire. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lycée quand on a joué du théâtre avec cette compagnie malienne? Il s'est passé que la partie des jeunes du lycée qui, français, étaient considérés comme pas tout à fait, pas vraiment vrais français, etc., et donc vivaient cet aspect d'eux-mêmes de façon un petit peu lourde, d'un seul coup, cet aspect d'eux-mêmes était sur la scène, dans la lumière. Et l'histoire qu'il racontait intéressait tout le monde, c'est-à-dire peuplait l'imaginaire de toute cette classe de petits Français, de tout ce lycée de jeunes Français. L'Afrique fait évidemment partie, dans le monde d'aujourd'hui, de l'imaginaire de tout le monde. On a la télé, on voit l'Afrique, etc. Mais là, d'un seul coup, c'est l'Afrique qui parlait, et cette Afrique rentrait dans l'imaginaire, non pas d'Allemands, non pas de Belges, non pas d'Américains, etc., mais de Français, de jeunes Français, noirs et blancs. Et d'un seul coup, quelque chose se transformait, c'est-à-dire quelque chose, l'Afrique étant dévalorisée, quelque chose qui était habituellement dévalorisé devenait la propriété de tout le monde, la propriété d'une partie de la France d'aujourd'hui, d'une communauté française d'aujourd'hui, et donc ceux de ces jeunes Français qui avaient un lien avec l'Afrique, lien qui se voit par la couleur de la peau, d'un seul coup, était légitimé dans la conversation. Et le spectacle par lequel les enfants, les jeunes ont été accueillis au théâtre, c'était un spectacle dans lequel un des pionniers du rap malien racontait sa vie, il s'appelle L'Homme au Sinon, et sa vie commence dans les rues d'Abidjan, sa mère est très pauvre, vit quasiment dans la rue avec lui, et il raconte l'histoire en gros d'une success story, avec à la fois musique et paroles, et récit. Et ce récit, évidemment, donné à des jeunes Français qui ont l'impression d'être mis à côté par ces deux aspects, le fait qu'ils viennent d'une partie du monde qui aujourd'hui fait aussi partie des antécédents, des origines de la France concrète, de la France populaire concrète telle qu'elle est, se trouvaient légitimés. Et deuxièmement, qu'on leur racontait l'histoire, une histoire qui leur disait « Votre vie n'est pas finie à 14 ans parce qu'on vous a mis dans un lycée professionnel », ça fait du bien. Se faire du bien, c'est la fonction politique de l'art, produire la communauté. Mais vous avez vu que dans cette affaire, on a produit de la communauté française, en passant, comme on l'a fait depuis hier, ici, en passant par une parole qui vient de l'extérieur, une parole qui vient d'ailleurs. Et cette parole a donné un peu une vision binoculaire qui permet à cette France qui n'est plus homogène, qui n'est plus faite que d'enfants de Gaulois, si elle a d'ailleurs jamais été faite d'enfants de Gaulois, parce que les Romains, les Francs sont arrivés, ils ont même donné, c'est même l'Allemagne qui a donné son nom à notre pays, parce que France, ça vient quand même des Francs. Donc on a des origines assez complexes. Mais voilà déjà le premier exemple que je voulais vous donner. Quel imaginaire commun pour nos peuples d'aujourd'hui ? L'imaginaire commun d'un peuple comme la France aujourd'hui, dont la jeunesse populaire a des liens familiaux importants avec le monde arabe, avec l'Afrique subsaharienne, etc., ça fait partie de l'imaginaire de la France. Ça fait partie de nos origines. De même que le Proche-Orient fait partie de nos origines religieuses, l'Allemagne a donné son nom à notre pays, Rome lui a donné sa langue, etc. La nature de notre pays, la singularité de notre pays, le nœud que forme notre société, c'est valable aussi pour l'Allemagne bien sûr, se fait aujourd'hui de tout ça. Comment le faire vivre? Comment l'art doit épouser cette modification de l'histoire humaine, modification très importante dont je parlerai tout à l'heure. Voilà un petit exemple, tout bête, tout simple. Et ça fonctionne et ça fait du bien, ça donne du plaisir, ça donne le goût d'être ensemble. Ça donne des histoires à se raconter ensemble. La deuxième histoire, elle s'est passée à Bamako, elle vient de se terminer, j'étais à Bamako la semaine dernière, et on a monté un spectacle, une pièce d'un auteur malien qui s'appelle Moussa Konaté, qui est décédé il y a 3 ans, qui a beaucoup vécu en France, mais enfin qui a vécu l'essentiel de sa vie au Mali, sa jeunesse, ça, et puis qui est venu auteur en résidence à Limoges, où il y a un festival de théâtre francophone, et il y est resté. Et sa pièce, je l'avais lue, je l'avais trouvée bien, sans plus. Et puis c'est l'ancien directeur du Festival de Limoges, Moussa Konaté étant décédé, qui m'avait dit, je lui avais promis que je montrais sa pièce, est-ce que tu voudrais pas qu'on la monte avec votre compagnie à Bamako? J'en avais parlé à Lioni Frandia et on s'était dit, oui, effectivement, c'est une bonne idée. Et puis il s'est passé quelque chose d'extraordinaire quand le théâtre a fait ouvrir le texte comme le soleil fait ouvrir une fleur. C'est un texte qui raconte, l'histoire est simple, c'est une dame de 50 ans qui appelle son frère. Les deux sont des enfants de Maliens, sont français mais enfants de Maliens. Et elle l'appelle à 3 heures, ça s'appelle un appel de nuit, elle l'appelle à 3 heures du matin dans une grande crise d'angoisse. Et c'est ce coup de téléphone nocturne qui ouvre sur des flashbacks où ils se racontent leur vie. Et ils racontent la vie, c'est-à-dire ils nous font entrer dans l'intimité de l'éclosion de ce nouveau monde, c'est-à-dire un monde dans lequel des parents maliens font des enfants français. Et que, à côté des petits Français blancs, il y a des petits Français, enfin là c'est pas des petits puisqu'ils ont 50 ans, noirs. Il y a des Français noirs. Et qu'il faut donc modifier notre représentation des choses, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a ce fantôme qui nous hante, qu'il faut déblayer. Et puis après ça, comprendre ce qui se passe. Et cette pièce est extraordinaire parce qu'avec une intensité émotionnelle formidable, on comprend, on voit naître cette nouvelle réalité. À travers les incompréhensions, très graves d'ailleurs dans ce cas-là, entre les parents et les enfants, les parents qui ne comprennent pas leurs enfants français, les parents maliens qui ne comprennent pas leurs enfants français, les enfants français qui ne comprennent pas leurs parents maliens. Et c'est une pièce qui va réunir le public, comme la Grèce le faisait autour d'Antigone ou autour de Diproie, mais là avec un public différencié, est réuni. C'est-à-dire que l'enfant français de parents maliens va entrer dans la confidence, va comprendre mieux ses parents. Le parent malien de français, d'enfant français, va comprendre mieux son enfant. Le français qui n'a aucun lien familial avec l'Afrique va comprendre mieux cette partie de sa société, comment cette société fait partie de la société française, comment ça s'est fait. Et d'un seul coup, on a un objet théâtral tout à fait novateur, sous une apparence banale, un texte dans un français classique, pur, syntaxiquement parfait, qui nous raconte ce nouveau monde. Et là encore, je pense que ça n'a été possible, cette chose tellement importante pour notre société, qui va faire tellement de bien au public, d'abord par le plaisir de l'émotion qu'il y a dans cette histoire, ça s'est fait parce que c'est un auteur malien qui l'a écrit dans notre langue, le français, et qui fait que ce détour, de la même façon que le détour, si j'ose dire, parce que encore le mot détour peut être critiqué, que ce chemin à travers l'expression artistique de ceux qui ont fait ce voyage, de ceux qui sont impliqués en premier dans ce voyage et dans cette modification, et quelque chose de tout à fait nouveau, sous une apparence, si vous lisez le texte, vous verrez, parce que sous une apparence, oh non, tiens, non, c'est, il nous a raconté une histoire. Mais alors, c'est, et alors on l'a joué. Donc, en fait, il y a aussi le public malien. On l'a joué au Mali. Au Mali, on est au Mali, le théâtre réunit le mécanicien et le ministre dans la même salle. Hein. Il n'y a pas la différenciation sociale qu'il y a dans les pays d'Europe. On avait des gamins des quartiers populaires. On avait le ministre de la Justice qui par ailleurs est le neveu de l'auteur, qui était là dans la salle, une attention, un intérêt énorme, voire entrer dans la confidence de la naissance de notre nouveau monde. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde ? On est dans une transition d'une importance phénoménale, transition écologique, bien sûr, la catastrophe est possible, l'humanité peut disparaître, la Terre est... Elle restera, bien sûr, mais l'humanité peut disparaître. Donc, c'est une sans doute une transition économique, parce que liée d'ailleurs à la question écologique, mais la représentation de l'économie comme la croissance continue, l'accumulation continue, la fétichisation de l'argent, etc. On voit bien que ça fonctionne pas et que ça provoque des troubles terribles, mais ça je reviendrai pas là-dessus, c'est un autre sujet. Mais la grande transition qui est déjà commencée et qui est énorme aussi, c'est la fin de la domination occidentale. L'Occident ne domine plus le monde. La Chine ne demande pas la permission à l'Europe ou aux États-Unis pour faire ce qu'elle a à faire et pour construire sa vie comme elle le veut, ou enfin comme le veulent ses dirigeants. L'Inde, pareil, etc. Dans 20 ans ou 30 ans, l'Afrique, ça sera la même chose. Et donc, la position qu'ont nos pays, je pense particulièrement à la France, puisque la France est très marquée par son histoire coloniale et qu'elle en a, elle en garde beaucoup des difficultés à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et on le voit bien dans l'espèce d'aigreur que notre peuple est en train de construire par rapport. Il n'arrive plus. C'est difficile pour un Français d'aujourd'hui d'aimer son pays, d'être patriote sans l'associer à sa position impériale. Comme sa position impériale est terminée, ça fait un peu des aigreurs d'estomac. Cette transition-là, elle est extrêmement importante et elle touche à la question de la reproduction de notre univers symbolique. Hein, nous reproduisons notre univers naturel, la transition écologique, nous reproduisons notre univers matériel, l'économie et la nécessaire, de mon point de vue, transition économique, et puis nous reproduisons notre façon de vivre ensemble et de nous gouverner, transition politique et culturelle. C'est très profond. On le voit aussi ici, je pense que c'était très présent dans tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'on a entendu. Par exemple, hier, quelque chose revenait en permanence. La question n'était pas quelle est la qualité de l'œuvre, quoique la question de la qualité de l'œuvre est très importante, c'était qu'est-ce qui se passe ? On a mis cette voiture là, qu'est-ce qui se passe? Je pense au film sur le drapeau blanc là, sur le pont de Brooklyn. Qu'est-ce qui se passe? J'ai produit un événement symbolique qui bouleverse les représentations, qui les met en mouvement. L'aspect plastique du drapeau blanc avec en filigrane le drapeau américain dans ce film est très fort aussi, mais il n'existe que dans ce lien à qu'est-ce qui se passe socialement. L'histoire de l'Occident, donc on termine la période de la modernité impériale de l'Occident. Il y a 500 ans, les quelques nations d'Europe ont engagé une guerre mondiale avec la conquête et le ravage des deux Amériques, presque immédiatement après le début du ravage de l'Afrique avec l'esclavage, et jusqu'au congrès de Berlin, et même un peu après, l'Europe a conquis la totalité du monde, soit en le mettant puissamment sous influence, soit en l'annexant purement et simplement. Et pendant cette période de 500 ans, qui est la période de la modernité, qu'on appelle de la modernité, il y a eu aussi une libération des connaissances, une libération des formes, hein, en même temps qu'on ravage l'Amérique, Léonard de Vinci peint la Joconde. C'est toute cette histoire, évidemment, qui marque énormément l'histoire de l'humanité. Elle va se présenter comme une histoire unique, comme un vecteur, on va parler du progrès, et tous les autres doivent se référer au vecteur, c'est-à-dire la pointe du vecteur, c'est la pointe du monde occidental. On va parler pour les pays non occidentaux de rattrapage. Tous nos mots sont liés à l'idée qu'il y a une seule histoire, qu'on va apprendre aux autres les bonnes pratiques qui sont les nôtres, et puis que c'est comme ça qu'ils seront heureux, on va les aider à atteindre notre... Et ça, c'est terminé. La Chine mène son histoire toute seule. L'Afrique commence à construire les briques pour retrouver son histoire et construire une histoire autonome, etc. L'art aussi. L'art de cette histoire unique s'est conçu comme une histoire unique. C'est-à-dire, par exemple, l'art de la musique dans le monde occidental, c'est l'art de l'harmonie, musique modale, musique tonale, le contrepoint avec le grand Jean-Sébastien Bach à côté d'ici, et puis Wagner qui fait passer qui chamboule le tonal, et puis la fin du tonal avec l'école de Vienne. Point final. L'histoire de la peinture, c'est l'histoire de la représentation, la libération de la représentation, libération des icônes byzantines, etc. Jusqu'à l'urinoir de Duchamp. Point final. Mais les gens n'ont pas arrêté de raconter des histoires avec des formes. Et c'est ce qu'on voit ici encore. C'est-à-dire que l'art contemporain, on pourrait le définir, bien que les marchands d'art et peut-être les chefs de l'art essayent de le remettre au chausse-pied dans une histoire vectorielle autoréférencée, c'est chaque fois des histoires complètement différentes. Quelle est la référence commune entre les tableaux qu'on voit là et la voiture qui est là? Non, laissez-les vivre ces histoires, laissez-les vivre tranquillement. De même, on entre dans une période d'histoire plurielle, où l'universalité n'est plus dans l'alignement, hein, ça c'est la grande croyance française par exemple, c'est que la France a porté l'universel par exemple sur le plan politique avec les droits de l'homme, etc. Et que donc, être universel c'est être comme les Français. Non, l'universalité est dans la conversation, dans la rencontre entre différentes voies, on construit l'universalité, encore une fois c'est un peu ce qui s'est passé ici. Un des autres aspects de l'histoire impériale et moderne de l'art, c'est-à-dire de l'histoire de la reproduction du champ symbolique dans le monde occidental, c'est la fétichisation de l'œuvre d'art. C'est-à-dire un peu le contraire de ce qu'on a dit hier toute la journée quand on disait qu'est-ce qui se passe. C'est quel est le dieu qui se cache, quel est le sacrement qui se cache derrière cette œuvre. À tel point, par exemple, qu'on croit assez tranquillement et sans trop de difficultés qu'une toile de Matisse dans un coffre-fort a de la valeur. Elle n'en a aucune. Une toile de Matisse dans un coffre-fort, c'est un placement comme un placement en bourse. Sinon, la toile de Matisse, vue par personne, n'est rien. ou qu'une pièce révolutionnaire de Brecht où il faut payer 40 euros pour aller la voir, c'est une obscénité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe une saloperie. Il se passe quelque chose d'obscène. Hein. Et dans ce qu'on a vu aussi c'est dans notre réunion, il y a à la fois une mise en cause par l'intervention, par la rencontre, une mise en cause de l'histoire vectorielle et de l'histoire unique, le commencement, les prodromes, le début de la pensée d'une histoire plurielle, d'une histoire de la rencontre, et de la fin de la fétichisation. Je ne sais pas très bien si j'ai compris, après le film, là, dans la conversation, et puis dans ce qu'on m'en a dit, l'artiste qui a fait ça se posait la question de la pérennité de ce qui s'est passé dans le monde de l'art. Est-ce que ça peut rentrer dans une galerie, etc. Peut-être que ce n'est pas la question. Peut-être que moi, je sais, par exemple, que si je montre ça à Bamako, dans une réunion d'amis, ça va donner plein d'idées à des tas de jeunes qui cherchent des idées et qui vont faire bouger les choses en produisant du symbolique à leur idée, etc. C'est-à-dire en désacralisant, en défétichisant l'œuvre d'art, en la sortant des cadres qui ont été magnifiques, hein. Je ne sais pas ce que je veux dire, n'est pas du tout pour dévaloriser la culture occidentale. Moi, quand j'ai des amis maliens qui viennent à Paris, je leur fais visiter le Louvre, et ils en sont ravis, et ils apprennent beaucoup, et ils éprouvent beaucoup de plaisir. Hein. Ce n'est pas du tout pour diminuer l'Occident, c'est pour dire, cette histoire-là est terminée, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., ne perdront pas leur grandeur en se mettant, comme les autres, à exprimer ce que seul chacun de ces peuples est capable d'exprimer, mais en le mettant en conversation avec les autres et non pas en essayant, en s'imaginant que c'est le nec plus ultra, ça va continuer. Ça nécessite aussi, ça va entraîner aussi une évolution considérable des paradigmes de la reproduction du champ symbolique, qui sont polarisés chez nous autour de la notion d'œuvre d'art, de la notion d'art, de la notion d'artiste. Par exemple, un des aspects qui a été très efficace dans ce qu'on a fait avec le lycée professionnel de Morsan-sur-Orge, c'est que les artistes africains ne sont pas habités, je les appelle artistes, là encore, c'est par extrapolation, ne sont pas habités par cette sacralisation, par cette fétichisation. Donc ils ne se prennent pas pour les grands prêtres d'une inspiration quasi divine qui vont répandre sur le monde. Les artistes français, si, la plupart du temps. Donc quand ils vous parlent, on sent le sacerdoce en eux. Ce sacerdoce-là est très intimidant pour un jeune qui a du mal à parler, etc. Mais les artistes maliens qui n'ont pas du tout cette représentation d'eux-mêmes vont arriver, vont être tout à fait naturels avec eux. Et d'un seul coup, ils vont se mettre à tutoyer l'art, cet art désacralisé, cet art défétichisé, c'est-à-dire des êtres humains qui produisent leur imaginaire commun, qui l'inventent, hein, c'est pas simplement qu'ils produisent, c'est qu'ils l'inventent pour ce monde. Voilà. Donc, en fait, c'est à peu près ça que je voulais dire. On est dans une transition très importante. Cette transition, sur le plan de la question culturelle, et la grande modification, c'est de passer à un monde où l'universalité est dans la conversation et non plus dans l'alignement. Il y a une difficulté pour les Occidentaux de le faire. Il y a une difficulté pour les autres aussi de le faire, parce que quand on vous a dit pendant des siècles, c'est les blancs qui sont les plus intelligents, qui sont les plus forts. D'ailleurs, regardez ceux qui ont des beaux châteaux et qui ont la pénicilline et tout ça. Ça rentre dans les esprits. Et donc, il faut se libérer aussi de cette emprise, de cette intimidation, de la domination. Donc, il y a un travail à faire de chaque côté. Ce travail, on a vu qu'il est productif puisqu'on l'a vu ici. C'est un des intérêts de ce qui s'est passé. Bon, j'ai essayé pour ma part d'en témoigner pour mon expérience personnelle. Peut-être que le pas qu'on peut faire par rapport à ce qu'on voit ici, et même par rapport à mon expérience personnelle, c'est d'élargir encore la défétichisation et la sortie de l'histoire vectorielle en acceptant qu'il y a des règles du jeu différentes. Par exemple, nous, on a inventé des règles du jeu dans lesquelles les comédiens sont des professionnels, sont payés pour ça, recherchent, j'ai la même expérience que vous, dans la recherche hallucinante des moyens financiers où il faut absolument passer par, surtout avec l'Afrique, parce que là, les gens se gênent moins avec l'Afrique qu'avec les artistes européens, donc il faut là vraiment passer sous les fouches codines du vocabulaire technocratique. Mais les règles du jeu ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, nous, on s'est inspiré beaucoup dans notre théâtre du Côté Bas, qui est une forme de comédie burlesque, de critique sociale qui existe au Mali. Oui, j'arrête. qui existe au Mali. Le Côté Bas, dans un village, l'idée de payer les gens qui jouent est absurde. Ridicule, puisque les gens viennent pour un moment de liberté d'expression où on peut tout dire. Quelqu'un qui ne vient pas ou qui paierait pour voir, ça n'a pas de sens. Tout le monde doit être là, puisque c'est toute la communauté qui est réunie. Il y a plusieurs règles du jeu. Ça ne veut pas dire que la nôtre est mauvaise, ça veut dire qu'il faut qu'elle accepte qu'il y en ait plusieurs. Et donc, regarder le champ de la production symbolique au-delà des limites qui ont été imposées par l'histoire occidentale, de la domination occidentale finissante, à ce domaine-là, cet élargissement-là aussi fait partie d'un travail très intéressant, très agréable, très stimulant à faire et qui sera bon pour tout le monde. J'arrête.